France Inter.
L'invité au carré, aujourd'hui,
Mathieu Jacquère, biologiste marin.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
30 septembre 1659, moi pauvre misérable Robinson Crusoé, après avoir fait naufrage au large durant une horrible tempête, tout l'équipage étant noyé, moi-même étant à demi-mort, j'abordais à cette île infortunée que je nommais l'île du désespoir. Je passais tout le reste du jour à m'affliger de l'état affreux où j'étais réduit, sans nourriture, sans demeure, sans vêtements, sans armes, sans lieu de refuge, sans aucune espèce de secours. Je ne voyais rien devant moi que la mort, soit que je dusse être dévoré par les bêtes ou tué par les sauvages, ou que je dusse périr de faim. À la brune, je montais sur un arbre de peur des animaux féroces et je dormis profondément, quoi qu'il plût toute la nuit. 3 siècles et demi plus tard, le décor semble avoir changé, mais l'épreuve demeure. En 2024, le biologiste Mathieu Jacquère ne se prend pas pour Robinson Crusoé, mais décide de s'installer seul pendant 8 mois sur un atoll inhabité de Polynésie française pour observer la nature et en mesurer la fragilité. Robinson comptait les jours pour ne pas sombrer, Jacquère compte les oiseaux, les coraux, les traces de plastique pour comprendre ce qui disparaît là sous ses yeux. La Robinsonnade n'a donc pas disparu, elle a simplement changé de sens. L'île, autrefois théâtre d'un combat individuel, se transforme en révélateur silencieux de l'état de la planète. Bonjour Mathieu Jacquère.
Bonjour Mathieu Vidard.
Merci d'être avec nous. Ce serait très exagéré quand même de dire que vous avez vécu pendant 8 mois comme Robinson Crusoé sur son île, parce que vos conditions de vie étaient quand même bien meilleures que les siennes. Hein.
C'est vrai. Et puis j'étais un naufragé volontaire.
Oui, absolument. Le sentiment profond de solitude, vous l'avez quand même éprouvé sur place, hein.
Oui. Finalement, il est arrivé assez tardivement, autour de 4 mois, c'est-à-dire à peu près à mi-parcours. Et je me félicitais à ce moment-là d'être vraiment robuste et me dire en fait ça se passe super bien et doit y avoir un peu d'ermite au fond de toi, jusqu'à ce que finalement quelques jours plus tard je rencontre les affres de la solitude et m'apercevoir à quel point en fait c'est difficile de vivre loin de ses proches. Et ensuite, ça m'a tenu régulièrement au cours du périple jusqu'à son terme.
Ouais. Donc ça vous a happé sans prévenir, cette histoire ?
Oui, c'était assez étonnant, en fait. Je ne m'y attendais pas du tout. Je me suis réveillé un matin, en fait, complètement affaibli. Je pensais que l'eau était croupie ou le poisson qui avait tourné. Et en fait, non, tout ça allait bien. Et je me suis aperçu qu'effectivement, c'était dans la tête et que, un peu de manière sauvage, effectivement, la solitude m'avait mordu aux tripes.
Ouais. À quel moment ça a disparu, d'ailleurs ? Est-ce que c'était, du coup, l'objectif de rentrée aussi qui vous redonnait des forces ?
Non, en fait, c'était... en fait, dès que j'étais, je pense, physiquement faible, ça peut être aussi une météo un peu chaotique pendant une semaine, en fait, le moral descend. Et ouais. À ce moment-là, la bête tapie dans l'ombre surgit et mord. Et donc, c'était toujours soudain et fugace, puisque, en fait, ça durait quelques heures, entre guillemets, et je trouvais du refuge dans l'action, en allant pêcher, ou en allant faire de la photo sous-marine, ou en écrivant, par exemple. La plume et la caméra ont été des précieux réconforts.
Donc, vous aviez quand même le remède pour en sortir parfois. Votre histoire est donc celle d'un isolement volontaire sur un atoll des Tuamotu, sur lequel vous avez vécu donc en autarcie pendant 8 mois pour vivre au plus près de cet environnement polynésien. Je rappelle que vous êtes biologiste marin, donc il y avait aussi évidemment toute une démarche scientifique. Donc, vous en avez rapporté à la fois effectivement une expérience unique, mais aussi donc des milliers de données et un documentaire dont on parlera dans un instant. Avant cela, on va faire connaissance avec vous, Mathieu Jacquère, pour découvrir votre parcours. Et puis essayer peut-être de comprendre ce qui vous a amené jusqu'à cette aventure. Et on va remonter donc un petit peu le fil de votre histoire. Vous n'êtes pas né dans le Pacifique au départ ?
Non, je suis un titi parisien. Et voilà, mais assez rapidement, je suis passionné pour l'étude des poissons, en fait, par la pêche. Quand j'étais gamin, j'allais pêcher dans les étangs de Gironde. Et je crois que cette passion vient de là. Après, on rêve de poissons plus grands et plus colorés. Ouais. Et donc, j'ai su assez rapidement, je voulais être océanographe, je disais, mais en fait, c'était peut-être biologiste marin.
Ah oui, déjà, très tôt, à quel âge alors vous aviez...
Moi, j'avais une dizaine d'années, je crois, quand j'ai confié ça à maman.
Ah oui.
Et ça m'a, effectivement, alors j'avais aussi l'univers de Cousteau autour de moi, et puis il y a eu Le Grand Bleu, enfin, il y a eu quelques grands films, et on va dire héros, Moitessier, et puis d'autres, qui inspirent un peu ce rêve de gamin. Et puis, chemin faisant, bah, j'ai pu mener ces études universitaires jusqu'au jour où, en 2001, j'ai eu la chance d'aller en Polynésie française pour faire un stage de Master 2. Et là, ça a marqué un virage. À cette date, je ne suis plus revenu sur le vieux continent, sinon pour voir la famille et les amis.
Et ces îles polynésiennes, vous en rêviez aussi assez jeune ou pas? C'était un décor dont vous rêviez?
Oui, alors c'était des îles tout court. Je n'avais pas encore situé l'océan dans lequel elles pourraient être. Mais elles se sont imposées à moi lorsque je les ai découvertes, parce qu'elles sont vraiment sublimes. Je pense que d'un point de vue paysager, esthétique, en fait, c'est vraiment extraordinaire, la puissance de ces couleurs, l'opulence de la végétation, l'exubérance de la vie sous-marine, quand même assez dingue. En fait, ouais. C'est pas les seules îles du Pacifique comme ça, mais elles en sont. Et c'est vrai que quelques années avant, j'avais quand même un poster à la maison avec les atolls et Tuamotu. Je pense que j'étais seul gamin en métropole. J'avais acheté ça à l'Institut Géographique National, ouais. À l'IGN. Et ces îles me paraissaient complètement incroyables, en fait. Des anneaux posés sur l'eau, comment est-ce qu'on peut vivre là-bas? Et voilà, donc j'avais une idée un peu vague.
Donc ça a dû un peu nourrir votre imaginaire quand même. Vous aviez des scientifiques déjà dans votre famille ou pas du tout?
Pas du tout, non. Maman est artiste peintre et papa architecte de l'intérieur. Donc non, je sais pas, j'ai dû trouver ma voie grâce aux petits poissons de Gironde.
Ouais. Ouais, ah oui, c'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Évidemment, moins coloré que ceux que vous allez découvrir ensuite. Et avec des modèles, vous en avez cité quelques-uns, Cousteau, Moitessier?
Oui, effectivement, c'est vrai que des Robinson, ils ne sont pas si nombreux, en tout cas ceux qui sont allés pour le plaisir, pas des naufragés, des vrais. Il y avait également Tom Neal, qui est un Néo-Zélandais, qui lui est parti 15 ans vivre sur une île perdue aux îles Cook, dans le Pacifique,
Suvarov,
tout seul. Il a écrit un livre assez fabuleux, ça s'appelle Robinson des mers du Sud, et c'est aussi un ami de Moitessier. Donc ce sont effectivement des propos inspirants, et dans le monde de la voile et des voiliers, on trouve quand même une résonance d'expérience, c'est-à-dire qu'on est mon bateau est une cabane, mais on est quand même au lieu des éléments, en fait on dépend de ça, on vit grâce aux éléments et aux ressources, voilà, donc c'est dans ces récits un peu navigation aussi que j'ai trouvé cette inspiration.
Bernard Moitessier, on va écouter une archive de 1969, c'est dans le journal de 20h de l'époque. Il était revenu en France puisqu'il habitait justement en Polynésie, il était revenu passer Noël en famille et voilà ce qu'il répondait aux journalistes.
Bernard Moitessier, vous n'aviez dit à personne que vous alliez rentrer en France pour Noël, personne n'était prévenu.
Je voulais voir ma femme et mes enfants et ma mère tranquilles, quoi. Il fallait que je passe les fêtes chez eux.
Et vous repartez pour Tahiti dans quelques semaines?
Oui. Et pour terminer mon livre.
Vous avez de grands projets?
Non, pas spécialement. J'ai jamais eu de grands projets, vous savez. Et je trouve 100 fois plus sympathique de boire un coco sous un arbre avec des copains, et ce qu'on fait à Tahiti presque tous les soirs, on regarde le soleil se coucher, et puis on respire, et puis on parle pas de fric parce qu'on n'a pas besoin de parler de fric, parce qu'on en a pas besoin de beaucoup, et puis c'est tout simple.
Voilà, 1969, la voix de Bernard Moitessier, grand navigateur. Est-ce que, Mathieu Juncker, vous vous reconnaissez dans ses propos?
Oui, mais c'est vraiment effectivement pour moi un héros, il a vécu... au moins 3 ans sur un atoll des Tuamotu, lui aussi, en famille. Il s'est vraiment intégré, en fait, au sein de la population. Et dans son propos, j'entends, il y a les belles, cette interview, il y a une recherche de sobriété qui est assez géniale, en fait. Enfin, la vie tient dans l'eau d'un coco vert et quelques amis. Et, ouais, ça me touche beaucoup. Oui.
Le documentaire qui est tiré de votre expérience s'appelle Seul sur l'atoll, journal d'un naufragé volontaire. On va le voir dans quelques temps sur France Télévisions. Titre en référence au livre d'Alain Bombard, Naufragé volontaire. Est-ce que Bombard, c'est une autre figure qui a compté pour vous ou pas?
Oui, j'ai eu la chance de lire son ouvrage ado. Et c'est vrai que ce que j'aimais bien dans son bateau s'appelait l'hérétique. Déjà en soi, je trouve que c'était un clin d'œil sympa. Mais voilà, avoir osé en fait démontrer lui-même en fait un engagement que les naufragés à l'époque mouraient non pas de faim ou de soif, mais d'anxiété d'être seul. Et que lui, en dérivant plus de 50 jours de souvenirs dans l'Atlantique, en se nourrissant de l'eau et du sang des poissons, etc., il a pu vivre. Et grâce à lui, effectivement, donc j'aime bien ce côté en fait de scientifique, il était médecin, qui s'engage en fait, qui vont au-delà en fait des chiffres et qui vont finalement s'exposer. C'est vrai que ça fait partie un peu de la quête que j'ai poursuivie moi aussi.
C'est 52, Alain Bombard, avec ce livre.
jour.
Donc, c'est, ah, oui, mais c'est en 1952. Et c'est vrai qu'il fait cette expérience, lui, sur l'Atlantique, hein, pour prouver qu'on peut survivre dans des conditions effectivement assez compliquées. Qu'est-ce que vous ressentez la première fois, Mathieu Juncker, que vous êtes dans l'avion, que vous survolez les atolls du Pacifique et que vous posez le premier pied, justement, en Polynésie? Qu'est-ce que vous ressentez déjà, rien que derrière le hublot, quand on voit ces atolls, parce que c'est assez impressionnant?
Oui, en fait, on se demande comment ça peut exister, en fait. Comment est-ce qu'au milieu d'un océan immense, le plus grand océan du monde, avec des vagues de plusieurs mètres, peuvent exister des îles dont le sommet culmine à quelques mètres, souvent 1, 2 ou 3 mètres au-dessus de la surface. Et donc c'est un équilibre en fait qui paraît fou. Et derrière ce qu'on perçoit, c'est-à-dire du hublot, cet anneau en fait posé sur l'océan, il y a une montagne en fait, il y a un volcan englouti et il y a un récif qui pousse à sa surface. Et donc se dire en fait qu'il y a une vie. Enfin, tout ça n'est pas en fait qu'architectural, c'est vraiment une vie qui est présente et qui soutient la vie terrestre au-dessus, quoi.
Ouais. Qu'est-ce que vous avez choisi d'étudier, vous en particulier, quand vous arrivez là-bas en tant que biologiste marin? Alors, vous êtes où exactement d'ailleurs? Où est-ce que vous posez le pied vraiment?
Alors, je ne le dirai pas.
Pourquoi?
Parce que, en fait, ces îles sont extraordinaires et ils mettent un coup de projecteur. C'est le risque de voir peut-être des personnes venir un peu, entre guillemets, en pèlerinage pour dire, ouais, tiens, et si on retournait sur les traces? Or, elles se portent plutôt bien lorsqu'on évite d'y débarquer. Voilà, donc... il y a 76 îles au Tuamotu, c'en était une parmi celles-ci, mais je recommande à chacun de choisir l'île qui lui convient. La mienne était presque taillée sur mesure et un petit peu grande.
Et donc, qu'est-ce que vous étudiez?
Alors, ce que j'étudie, en fait,
quand
c'est...
quand vous commencez là-bas?
Alors, j'ai une formation en biologie marine, mais c'est pas tant, en fait, la faune sous-marine qui est exceptionnelle, c'est la faune terrestre, parce qu'on trouve des espèces d'oiseaux, notamment, dont un qui s'appelle le chevalier des Tuamotu, que les locaux surnomment le Titi, ouais, c'est son chant. Et cet oiseau, en fait, il est endémique, il n'existe nulle part ailleurs sur la planète qu'au Tuamotu, et d'après les derniers recensements que j'avais à l'époque en 2024, il y avait environ 1000 individus présents. Et cette espèce, donc, menacée d'extinction, me disait en fait, c'est peut-être elle qu'il faut aller voir, parce qu'elle va peut-être nous donner plus d'informations sur le reste de l'atoll.
Et c'est ce qui a motivé toute l'aventure ensuite? C'est vraiment le Titi qui vous a guidé quasiment?
Non, en fait, ce qui m'a guidé, c'était plutôt une volonté de sortir en fait du confort et d'aller observer un milieu extraordinaire, magnifique, et en même temps en sursis, et raconter l'histoire. Et le Titi, dans ce paysage-là, c'était un peu l'espèce emblématique, le porte-étendard. Donc voilà, en observant le Titi, je vais comprendre l'animal, mais aussi son habitat, c'est-à-dire les îlots, la végétation, et ces îlots eux-mêmes dépendent du récif qui les borde. Et donc, j'ai une étude assez intégrée, holistique, depuis l'oiseau, jusqu'au récif corallien, ouais. Et ainsi j'ai monté effectivement un peu ce programme d'études.
On va reparler du Titi dans un instant, qui est quand même le fil rouge, hein, de cette aventure. En tout cas, on le retrouve de bout en bout dans ce documentaire. Ça fait combien, 25 ans donc, que vous vivez là-bas maintenant quasiment?
Oui, 25 ans dans le Pacifique. Ouais. J'ai eu la chance d'habiter à Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, et puis de temps en temps, en Polynésie française, au fond de mission. Ouais.
Qu'est-ce que vous avez observé concernant les changements d'ailleurs sur place, d'un point de vue environnemental, depuis 25 ans? Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui sont frappantes?
Oui, il y a des choses qui le sont. À la fois, le Pacifique fait partie des derniers récifs les plus préservés en fait de la planète. Il faut être bien clair. Donc, mais malgré tout, en fait, on note un peu partout une dégradation de ces récifs coralliens. Alors, on pourrait dire bon, bah, récifs coralliens, et après il y a d'autres choses. Mais ça fait quand même vivre quelques centaines de millions d'habitants à l'échelle de la planète. Ça fournit des ressources alimentaires, un abri, une barrière physique contre les vagues de l'océan. Ça protège donc les zones côtières où on trouve souvent toutes les infrastructures. Donc ces récifs en fait jouent un rôle essentiel. Et malheureusement, en fait, on constate qu'il y a des canicules marines, qu'il y a des cyclones peut-être plus intenses aussi, et certaines espèces qui se développent, en fait, c'est qu'ils viennent vraiment ravager ces récifs, ouais, au point où certains ont du mal à s'en remettre.
On vous voit prendre la température de l'eau à un moment, hein. Vous avez tout un dispositif qui vous permet d'enregistrer sur plusieurs jours, justement, la température du Pacifique. Est-ce que les températures que vous enregistrez, c'est des températures que vous ne voyiez pas dans le passé? Je crois qu'à un moment, les températures montent à plus de 31 degrés, c'est ça?
Exactement. Alors en fait, ça a été une surprise parce que j'avais mis des sondes de température prêtées par des collègues de l'IRD dans le lagon et à l'extérieur. Ouais. Quand j'arrive sur l'atoll, je vois déjà quelques coraux blanchis. Bon, je dis, oh, c'est peut-être juste ça. Et puis je me baigne et là, je me rends compte effectivement qu'elle est vraiment chaude. Et dans les semaines qui vont suivre, les coraux finalement vont pour certains, blanchir de plus en plus et mourir. Et c'est qu'après que je récupère ces données, je m'aperçois qu'effectivement, pendant plus de 5 semaines, à 6 mètres de profondeur, l'eau était à 31 degrés, c'est-à-dire que c'était presque ça bouillait, j'ai envie de dire. Le corail a du mal à supporter une telle température si longtemps.
Ça, c'est de la canicule marine. Hein. C'est vraiment, ça répond à la définition des canicules marines.
Précisément. Et a posteriori, en revenant de cette expédition, en me rapprochant de collègues, notamment qui font la télédétection, on a regardé en fait des images, un historique d'images satellites, et on s'est aperçu que cette canicule qui a traversé le Pacifique, et notamment les Tuamotu, était la plus intense jamais en fait mesurée, et la plus longue aussi en fait. Et donc, lorsque moi j'étais sur l'atoll, c'est un phénomène exceptionnel et dramatique que j'ai pu vivre en live.
Avec des conséquences évidemment pour cet environnement, on va en parler dans un instant. Mathieu Juncker, vous allez nous raconter comment est né aussi ce projet et ce que vous avez vécu seul sur cet atoll. Donc pendant 8 mois, vous êtes aujourd'hui notre invité au carré avant de repartir pour la Nouvelle-Calédonie.
France Inter. Mathieu Vidard. La Terre au carré.
De quoi écrire on fait un carnet de bord là, ça offert par des amis. Hein. Papier recyclé. Pour suturer, il faut oser le faire, se suturer soi-même. De quoi recoudre un bouton, un entonnoir, des graines, tomates, potas qui sont riches en calcium. Château La Source, Clofontaine 2020. Château Robin, également Castillon. Petit manuel de résistance contemporaine. Les poésies complètes de Rimbaud. Ouais, bien tranchant. Bon, et ben, il n'y a plus qu'à ranger tout ça.
Voilà la liste de vos objets, Mathieu Juncker, sur cet atoll du Pacifique, vous qui êtes biologiste marin et le protagoniste donc d'un documentaire Seul sur l'atoll, journal d'un naufragé volontaire réalisé avec Jérôme Reynaud et qui raconte donc les 8 mois que vous avez passé seul sur un atoll du Pacifique, documentaire qui va être diffusé dans quelques mois sur France Télévisions. Se suturer soi-même, vous auriez été vraiment capable de faire ça? Il paraît que vous avez appris à le faire avant de partir.
Oui, je suis entouré de médecins qui, par ailleurs, étaient des amis, urgentistes et généralistes, puis également un infirmier militaire, et qui m'ont montré comment faire. Alors, on avait pris une patte de cochon, en mettant un champ, donc ça ressemblait vraiment au bras, et puis donc je me suis amusé, effectivement, à... Sauf qu'au moment où j'étais en train de recoudre, c'était tellement vrai, c'est pour ça qu'on prend une patte de cochon, en fait, que je me suis dit, mais... T'es bien sûr que le moment où ça va arriver, tu vas être capable. Ouais. Si bien que j'ai pris beaucoup de précautions après, pour me dire faut que ça n'arrive jamais.
Pour éviter d'avoir à vous faire des points de suture. Hein. Mais vous étiez à 2 doigts de tomber dans les pommes, je crois. Hein.
Oui, c'est exactement. J'étais un peu faible.
Apparemment. Ça, c'est vraiment le danger, d'ailleurs, quand on part 8 mois seul sur une île. C'est d'être blessé, finalement, d'avoir un pépin de santé.
Oui, parce que l'île, en l'occurrence, est vraiment très isolée. Il faut plusieurs heures de navigation pour y accéder par beau temps. Une dizaine d'heures si, ou 15 s'il fait mauvais. Et même s'il fallait un truc très grave, une morsure de requin ou un coup de sabre quand je coupe du bois dans le bras.
Ou une pince de crabe, hein, parce qu'ils sont assez costauds, ce qu'on voit dans le documentaire.
C'est vrai qu'ils pourraient. Là, effectivement, aussi l'hélicoptère, ça serait très compliqué. Donc, à tout moment, en fait, dès que je tiens une hache entre les mains pour couper un coco, je suis vraiment hyper vigilant en disant, en fait, là, il ne faut pas que ça dérape. On devient très attentif.
Ouais. Et vous n'est rien arrivé du tout?
Non, des bricoles, franchement, des petites infections, mais juste ce qu'il fallait. Et voilà, une dent cassée tout de même. Enfin, voilà, il y a eu quelques petites aventures, mais rien de sérieux. Mais honnêtement, c'était la vigilance, en fait, qui a...
À un moment dans le film, on vous voit nager à côté. Alors, vous avez un petit voilier, hein, c'est une sorte de petit catamaran, d'ailleurs.
Oui.
On vous voit nager, et tout d'un coup, le voilier vous échappe. On voit la corde qui s'échappe de votre main. Ça aurait pu être absolument dramatique, ce passage, non?
Oui, c'est vrai que je pense que j'étais encore jeune dans mon expédition. Ça s'est passé au bout de quelques semaines, 5 ou 6 semaines. Et je me suis glissé sous le kayak à balancier parce que j'avais un truc à régler, en fait. Et en fait, le vent soufflait fort, il y avait du courant. Et le bateau, en fait, m'échappe des mains. Et surtout, en fait, à ce moment-là, il y a une accélération du vent. Et en fait, la voile se déroule, elle est enroulée sur le mât, elle se déroule. Et donc, le bateau bondit, en fait. Et là, je vois vraiment le bateau qui part loin. Et je sais que si je ne le rattrape pas, en fait, le rêve est un peu perdu parce que...
Et puis vous êtes perdu tout court quand même, non?
Bon, je me suis dit que je rentrerais bien un moment, parce que ça reste une grande piscine, hein, même si c'est très grand, en fait, donc je serais rentré quand même sur la tombe. Mais là, c'était plutôt le bateau qui me souciait. Ouais. Parce que je me dis, en fait, s'il n'y a pas le bateau, tu vas rester confiné sur un petit îlot de 300 mètres de long. S'il y a le bateau, en fait, tu as une surface de jeu 6 fois grande comme Paris, en fait.
Oui, c'est ça.
Voilà, donc c'est vrai que je me suis vraiment épuisé. Enfin, je pensais que, pour moi, c'était cuit. J'ai donné mes dernières forces et j'ai attrapé in extremis le bout qui était dans l'eau. Et j'ai pu remonter jusqu'au bateau.
Ouais. Et ce qui est incroyable, c'est que vous continuez à filmer quand même pendant tout ce temps-là. Mais vous avez une GoPro sur le casque, hein, je crois.
Oui. Et puis c'est vrai que c'était la recommandation de mon ami Jérôme Reynaud, le réalisateur, c'est en fait tu filmes tout, voilà, donc je peut-être pas tout, mais beaucoup, et donc j'avais tout le temps des caméras à droite à gauche dans les poches,
c'est ça.
Ce qui permettait en fait une certaine spontanéité de saisir un peu les instants où Quelquefois, on s'en veut de ne pas avoir allumé la caméra avant.
Et ça, évidemment, les réalisateurs aiment bien les moments saillants, hein, pour donner un peu d'émotion au spectateur. Et c'est le cas. Et racontez-nous comment a germé alors l'idée de ce départ volontaire sur cet atoll.
En fait, les racines sont nombreuses. Je vais en présenter deux, mais certainement qu'il y en a plein d'autres. La première, donc, c'est effectivement ce rêve de Robinsonade qui me tient depuis longtemps, depuis que je lise, comme vous disiez, Robinson Crusoe ou L'île au trésor. Donc, un rêve d'enfant. Et en même temps, beaucoup plus tardivement, je pense qu'à la fin de mes études de biologie, justement d'ailleurs à Paris notamment, où je prends conscience qu'on est changement climatique, on est à ce moment-là en l'an 2000, un petit peu avant, et en fait le monde va pas très bien, et moi-même à mon échelle, c'est-à-dire sur 20 ans, 25 ans dans le Pacifique, j'observe effectivement une dégradation des récifs, mais aussi des milieux côtiers, mais aussi du bassin versant, donc c'est... Et pourtant, encore une fois, c'est des endroits qui sont peu habités, les pressions humaines sont relativement... Et je me sens impuissant, en fait, et ça c'est... Et ça me porte sur le moral, en fait, de me dire, on a des chiffres tous les jours qui nous arrivent dès qu'on ouvre les nouvelles, qui sont tellement dramatiques qu'en fait, une vie entière ne suffit pas à les soigner. Donc, il faut dépasser pour moi le cadre purement scientifique et d'apporter le chiffre. Ils sont bien nécessaires aujourd'hui, cette science-là, mais elle ne permet pas visiblement, en fait, de changer de comportement. Il va falloir, effectivement, un levier plus fort. Et le pari que je fais, c'est me dire, en fait, il faut passer par l'émotion. Je veux dire, aujourd'hui, en fait, on a notre claque d'avoir des mauvais chiffres, en tout cas moi-même le premier, en fait, il faut que ça sonne d'alarme. Mais en fait, on se lasse et soit on déprime, soit on est dans le déni, ce qui est pas terrible non plus, quoi. Et donc je me suis dit, en fait, j'ai transformé ce rêve de Robinsonade en partant faire ce que j'essaie de faire de mieux, c'est-à-dire d'écrire, observer scientifiquement des protocoles et avec des chiffres, des analyses, etc. Mais en même temps, les vivre moi-même dans ma chair, comprendre ce que vit cet atoll et le raconter. Et le raconter avec un film, avec une plume, à votre micro. Et ça donne, je trouve, une épaisseur supplémentaire, une densité autre, et qui, j'espère, en fait, peut émouvoir les gens et finalement les inviter à changer leur comportement aussi.
Donc il y avait un protocole scientifique, évidemment, avant de partir. Et quand vous arrivez sur place, il y a un cabanon qui est installé, hein, donc avec tout le matériel nécessaire, hein, parce que vous n'êtes pas juste avec un pagne à manger du lait de coco. C'est vraiment scientifiquement très pensé, on vous aide à construire quelque chose. Donc vous avez tout le matos là pour passer 8 mois sur place et surtout bouger d'atoll en atoll. Hein. C'était ça aussi le projet.
Exactement, tout à fait. Je ne suis pas parti pour une expérience survivaliste. Je n'étais pas très intéressé par ça. Il fallait quand même survivre, on peut en reparler. Mais ce stade-là était rapidement dépassé parce que j'avais du matériel, parce que j'avais appris à pêcher, parce que les gens là-bas sur place et d'autres amis océaniens m'ont montré comment me débrouiller. Il y a des poissons toxiques, il y a des plantes qui se consomment ou pas.
Enfin, bref, faut aimer le poisson cru, hein. On va manger du poisson cru à un moment. Faut quand même être préparé. Mais...
Oui, mais aussi du poisson faisandé. Enfin, j'ai goûté à toutes les sauces. Mais n'empêche que je crois être rentré en bien meilleure santé que j'étais parti. Donc c'est un bon régime, le poisson.
Faire de l'eau potable aussi.
Oui, ce qui prend beaucoup de temps. Et c'était. Il n'y a aucune ressource en eau, en fait, disponible. Il y a quelques cocos, mais trop en boire, en fait. C'est laxatif, donc ça, c'est le problème inverse qui se pose. Et la pluie, pendant 50 jours, j'ai pas une seule goutte. Et donc là, ça devient problématique. Il fait une chaleur infernale.
C'est-à-dire, il y a combien de degrés à peu près sur...
Ça va pas tant que ça, si je vous dis 32, 33, 35 degrés, mais par contre, c'est 100% d'humidité. Et en fait, on est quasiment en fait, sur des températures létales dans ce taux d'humidité-là. En fait. C'est en fait que c'est presque intenable.
Il y a des donc il faut s'hydrater.
Il faut s'hydrater, exactement. Donc faire gaffe, en fait, il y a des heures, il ne faut pas sortir, se protéger, enfin me protéger.
Ouais. Donc tous les jours, vous alliez le matin chercher avec des seaux de l'eau de mer. Il fallait combien? 100 litres d'eau de mer pour 1 litre d'eau potable, c'est ça?
Alors, c'est un peu mieux que ça, mais ce n'est pas terrible dans le rendement. En fait, c'est 100 litres d'eau de mer pour 10 litres d'eau douce.
Ah, 10 litres d'eau douce, oui.
Et c'est 2 heures, effectivement, de la machine, donc le désalinisateur, effectivement, fonctionne. Il faut être très vigilant parce que si un grain de sable, et il y en a des grains de sable par là-bas, ça peut tout bloquer. Et puis sinon, lorsque le grain arrive, le nuage noir, là, il va y avoir une pluie, donc là, il faut dérouler la bâche tout de suite, mettre la citerne et puis récupérer autant d'eau que possible.
On va écouter un nouvel extrait de Seul sur l'atoll, journal d'un naufragé volontaire.
Aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter de compter les jours. Il m'a fallu plus de 4 mois pour réaliser que ce compte à rebours m'empêchait de vivre pleinement mon aventure. Ici, le temps ne veut rien dire. Certaines semaines durent 1 mois, d'autres à peine 2 jours. Alors à quoi bon ? Le seul temps qui compte ici, c'est le présent.
Hier, j'avais déjà commencé à avoir quelques nodis bras au sol. C'est comme voir, je sais pas moi, un éléphant qui vole ou un chat qui nage. Et aujourd'hui, là, c'est la folie, quoi. Ils sont tous à construire leur petit nid.
Voilà, c'était vos voisins les plus proches, hein, ces oiseaux autour de vous, Mathieu Ginker. Quand on a 8 mois devant soi comme ça, bah, évidemment, il faut s'occuper. Heureusement, il y a la science. Hein, on rappelle que vous étiez quand même là pour ça. C'est une organisation très ritualisée ou au contraire, plutôt anarchique en fonction de ce que vous avez envie de faire. Est-ce que vous accordiez beaucoup de liberté ou pas?
J'ai passé par différentes phases. Au début, c'était anarchique parce que je ne savais pas par où commencer, tellement j'avais de choses à faire. Et face à ça, j'ai fait de l'hyperprogrammation, donc objectifs, planification, programme, etc.
Ah oui, c'était tableau Excel quasiment.
Ouais, c'était presque ça en fait. Et donc je travaillais comme un âne en fait, enfin, je veux dire 19 heures par jour et tout. Et je me suis un peu épuisé. Et puis en fait, le climat, l'ambiance en fait, fait que naturellement on revient à un rythme plus soutenable. Puis en fait, ça n'avait pas de sens non plus d'être là-bas pour finalement être pressé comme ça. Et donc j'ai retrouvé finalement au bout de quelques semaines, je veux dire même quelques mois, le bon rythme en fait, celui de la respiration du récif. Et voilà.
L'organisation scientifique, donc là aussi on le disait, vous ne restiez pas toujours sur votre atoll. Hein, l'idée c'était de prendre votre petit bateau et d'aller visiter d'autres atolls. Là aussi, toujours guidé par ces travaux sur les oiseaux.
Précisément. Donc, en fait, j'étais sur le même atoll, cette grande île qui est 6 fois grande comme Paris. Mais cet atoll est composé de nombreux petits îlots, comme un chapelet. On appelle ça des motus en polynésien.
Ouais.
Et grâce au bateau, j'ai pu parcourir des centaines de kilomètres dans le lagon et explorer progressivement le sud où j'étais basé, où était présent essentiellement le Titi. Donc, j'habitais vraiment dans l'habitat des Titi. Et puis, d'aller voir où s'arrêtait sa répartition et où étaient ses prédateurs, qui sont des rats qui ont été introduits, qui n'ont rien à faire sur ces îles et qui sont malheureusement, effectivement, nocifs pour l'environnement en général et pour le Titi en particulier. Donc j'ai fait une cartographie mois après mois de cet atoll.
Donc vous partiez en excursion en fait, hein, régulièrement. Donc vous dormiez sur d'autres atolls, c'est ça?
Exactement, c'était d'autres motus, donc c'était un bivouac. Effectivement, alors quand on part, parce qu'en fait, le dessalinisateur, il est sur l'îlot Basse-Vie.
Ouais.
Tout le matériel de sécurité, il est là en fait. Donc quand je pars, il faut que j'emporte de l'eau, un sabre d'abattis, de la corde, etc. Parce que si j'ai un pépin, je pars 3, 4, 5 jours ailleurs. Là, il n'y a plus rien, en fait. Hein.
Ouais.
Là, c'est vraiment le double isolement. Hein. C'est l'insularité dans l'île, déjà. Et donc, il faut être... je passais quasiment une journée entière à préparer l'expédition de plusieurs jours pour être parfaitement autonome, y compris le matériel médical. Si j'ai une hémorragie, il fallait... Voilà. Donc, c'était effectivement sous forme de... Toutes les semaines, je partais quelques jours sur d'autres îlots.
Cet atoll, vous l'avez choisi comment, d'ailleurs? L'atoll vraiment de base, hein. Quels ont été les critères pour vous?
Alors, ils étaient... environnementaux, géomorphologiques et aussi culturels. Je souhaitais un atoll loin des sources de pollution. Donc j'avais en tête les pollutions nucléaires, Mururoa, donc à 1000 km de là, je me suis éloigné. Les activités humaines, les lagons de Polynésie française servent parfois en fait, à la perliculture, donc les jolies perles, mais qui ont aussi des impacts sur le récif par le fait de plastique. Également d'autres activités. Donc un atoll inhabité. Il y en a un certain nombre, mais pas tous. Et aussi un atoll qui a une passe. Cette passe, c'est ce qui assume un peu la respiration entre l'océan et le lagon. Donc l'eau circule en fait comme ça. Ça fait des lagons beaucoup plus riches, mais aussi pour y accéder et en cas de pépin, on peut rentrer dans l'atoll ou en sortir. Alors qu'un atoll qui est fermé, il y en a, donc c'est des anneaux complètement fermés. Là, il faut vraiment échouer le bateau sur le récif et débarquer, ce qui est l'enfer. Voilà, donc ces critères-là et d'autres aussi un peu plus précis, notamment la biodiversité en oiseaux, ont été les critères qui ont permis, finalement, parmi 76. Je n'ai trouvé qu'un seul qui correspondait précisément à ces critères.
Seul sur l'atoll, Mathieu Ginker, vous êtes notre invité au carré.
La Terre au carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
Là, ça fait 50 jours, là, j'ai eu une toute petite pluie, en fait, une sorte de crachin. J'ai même pas le temps de déployer la bâche. Bon, là, je vois un ciel hyper menaçant, donc j'aimerais bien qu'il pleuve. Allez, pourvu qu'il pleuve.
Wouhou! Là, c'est la danse de la pluie, là, putain!
C'est 50 jours que j'attends la pluie, et là, c'est le déluge, quoi.
Il y a un coco qui vient de tomber, là. Un deuxième. Waouh!
Mathieu Ginker, extrait de votre journal d'un naufragé volontaire seul sur l'atoll et l'arrivée de la pluie. Sauf qu'évidemment, après 50 jours, quand ça arrive, ça rigole pas et on la sent passer, hein.
Il y en avait trop.
Ouais. C'est vraiment le déluge.
C'est le déluge complètement. J'ai l'impression d'être sur une arche de Noé à la dérive.
Ouais.
Et puis il y avait un vent fantastique. Hein. Il y a eu presque 100 km/h de vent. Donc c'était pas loin d'un cyclone, hein, c'est 120 km/h. Et donc tout branlé, y compris la cabane dans les arbres.
Ouais. Et l'attitude des oiseaux, ça c'est assez étonnant d'ailleurs, parce qu'eux aussi prennent évidemment cette tempête de plein fouet. Et comment ils s'adaptent à ça, eux?
Alors je les ai trouvés.
C'est perturbant aussi pour les oiseaux?
Oui. Ce sont des oiseaux marins, ce sont des grands voiliers qui peuvent parcourir des dizaines, centaines de kilomètres même tous les jours. Et pour autant, ce sont un vent aussi puissant. Ils sont venus bien sûr sous le vent, c'est-à-dire à l'abri de la végétation. Mais ça ne suffit pas. Certains étaient vraiment roulés, en fait. Ils font souvent collision, ils s'agrègent les uns les autres. Ouais. Et justement, on s'aperçoit en fait qu'un événement qui n'est pas non plus qui est une petite tempête ou un gros orage, on l'appelle comme on veut, ben en fait, a des conséquences assez majeur. Et donc, on imagine, lorsqu'il y a vraiment un cyclone, quelque chose d'assez costaud, en fait, où ça peut vraiment être ravagé. Quoi.
On voit ces oiseaux, quand même, qui persistent à rester sur les branches, malgré la tempête, et qui sont vraiment complètement balayés, mais qui restent, quand même, à cet endroit-là. Ils pourraient aller se protéger ailleurs, non?
Oui, alors, effectivement, j'aurais posé la question, ils n'ont pas répondu clairement. Alors, certains ont quand même des œufs. Alors c'est quand même fou, hein. Il y a certains oiseaux, les gisses blanches, qui pondent un œuf sur une branche, qui est complètement fou, en équilibre.
C'est ça.
Et donc, s'ils décollent de la branche, l'œuf est perdu. Et donc, ils vont passer 35 jours. Et alors, quand il y a moins de vent, l'un se lève et l'autre, parce que les mâles et femelles gardent tous les deux les œufs, donc l'autre prend la place. Mais il faut voir le jeu d'équilibriste, de changer de position sur une branche avec l'œuf en équilibre.
Sans que l'œuf ne fasse une omelette. Qui est Fougas, Mathieu Juncker?
C'était un compagnon d'aventure. Un Fougas, parce que c'est un fou masqué, qu'il avait une gueule bien sympathique, et il m'a tenu compagnie, ou c'est peut-être moi qui lui ai donné un peu de ma présence. Il était sur le bord de la mer, pas très loin de la cabane où je
surtout que vous l'avez vu naître.
Oui.
Vous avez vu l'œuf,
oui,
vous avez vu sa naissance, et vous avez pu suivre une partie de son adolescence, quasiment. Hein.
Voilà, on a passé 4 mois à se côtoyer, c'était extra, en fait, hein, de voir tous ces stades-là, et de le voir jusqu'à s'envoler. Et puis surtout, c'était des oiseaux, et je n'avais pas en tête ça. Je connaissais mieux le monde des poissons. C'est des animaux très sociaux, en fait, et qui ont des comportements de paranuptial, de compétition. Et donc, quand on parle, enfin, je parlais tantôt aux oiseaux, je ne sais pas lequel des deux était le fou, il y avait une vraie attention. C'était incroyable, en fait. Vraiment, il y a la tête, le regard et tout. Et quelquefois, même le jeu. Je les ai vus jouer avec des feuilles, à me la tendre ou à récupérer. Voilà, bon, je ne me suis pas amusé à créer davantage de liens. Je voulais que la faune demeure sauvage. Mais c'est assez génial, en fait,
pour interagir. Et vous suivez en bateau aussi, c'est ça, hein?
Alors, oui, en tout cas, voilà, mais je pense que c'était aussi pour apprendre, en fait, à pêcher. Ouais. Où, vraiment, il plongeait, c'est incroyable, lourdement dans l'eau, juste devant moi, et redécoller avec une algue qui ne servait à rien, sinon de s'entraîner.
Mathieu Juncker, un autre animal qui est aussi au cœur des préoccupations sur les atolls, ce sont les rats. On va écouter un extrait de votre documentaire.
Eh ben voilà un joli spot pour installer des pièges à rats.
Bon, là, le protocole, il est vraiment simple. Il consiste juste à placer une tapette à rats avec un morceau de coco. Profite pour manger un peu parce que c'est bon, il n'y a pas que les rats qui aiment ça. Non. Je couvre avec un pot de fleurs. Parce que comme il y a plein de titis, je ne voudrais pas qu'ils se prennent au piège eux-mêmes. En tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est un havre de vie pour les titis. Ils ont l'air nombreux et très expressifs. Ah. Et les voilà. Donc c'est des titis, il faut espérer qu'il n'y a pas de rats, sinon c'est le drame.
Mathieu Juncker, la question des rats sur ces atolls du Pacifique, c'est un vrai sujet. Hein.
Complètement. Le rat, c'est une pression majeure pour toute la faune, les oiseaux en particulier, mais aussi des crabes et la végétation. C'est des espèces qui n'ont rien à faire là-bas, parce que ce sont des animaux continentaux. Là, on est à 6000 km de tout continent, que ce soit l'Amérique d'un côté ou l'Australie de l'autre. Et pourtant, il y a des rats. Parce que les rats, en fait, ils sont toujours dans les bagages des hommes, qu'ils le veuillent ou non. Et lorsqu'on débarque, on peut introduire un ou deux rats. Et ça fait souche, et en une année, on peut voir plusieurs milliers, centaines, milliers d'individus. Et ces rats vraiment ravagent tout. Et les oiseaux qui ont jusque-là vécu sans ces prédateurs se trouvent démunis, naïfs, et sont prédatés eux-mêmes, sinon leurs œufs. Voilà, donc c'est vrai que lorsque le rat était présent, le titi n'était pas là. Et lorsque le titi était présent, le rat n'avait pas été introduit.
Alors, combien de motus exactement vous avez étudié?
Une quarantaine.
Vous étiez sur 40 motus pendant le séjour.
Et puis plusieurs fois. Ouais. Et puis des descriptions assez fines, à la fois de la végétation, de la déclivité de la plage, enfin tout un tas de variables.
Et il y avait des rats sur tous les motus ou pas?
Non. Il y avait une zone que j'ai appelée Sanctuaire du Titi, qui est dans le sud de l'atoll. Et en fait, ils sont vraiment... C'est les derniers, la zone la plus éloignée de la passe, c'est le dernier bastion, j'ai envie de dire.
Ouais.
C'est le précipice. Et les rats encerclent cette zone-là et en plus gagnent du terrain. J'ai trouvé des données anciennes où les rats n'étaient pas encore là. Mais moi, je les ai vus. Et donc la question, c'est effectivement quelle est la survie de cet oiseau et derrière de cet atoll.
Ouais. Et la baisse donc de population de titis, donc ces oiseaux, c'est lié directement, selon vous, à la présence des rats ou pas?
Alors, c'est le prédateur majeur, mais il y a également une destruction d'habitat lorsqu'on met le feu sur un îlot. Alors, ça paraît peut-être absurde de loin, mais en fait, concrètement, lorsqu'on fait du copra, lorsqu'on ramasse des cocos, les cocoteraies, ça génère énormément de palmes au sol. Mmh. Donc, ça ferait un vrai fouillis, une broussaille. Et donc, à la fois, les gars viennent gratter une allumette et foutent le feu à tout l'îlot, en fait. Et ça brûle, en fait, les ressources alimentaires du titi qui se nourrit au sol, d'insectes, d'invertébrés, et puis aussi toute la faune, le reste de la faune. Ouais. Donc, ça, c'est dramatique. La destruction de l'habitat et les rats. Et l'érosion littorale, puisque cette érosion, elle est liée en fait à la mer, et donc elle ronge les plages qui sont là où vivent aussi les titis. Ouais. Donc il y a trois sources de pression, toutes liées à l'homme.
Il y a les Bernard l'ermite aussi, hein, on le voit dans le film, qui mangent les œufs des titis. Alors c'est pas le petit Bernard l'ermite qu'on connaît nous hein, sur nos côtes, ils sont énormes hein, là-bas. Hein.
Oui, alors le plus gros Bernard l'ermite, c'est le crabe de cocotier, qui lui est bon à manger, mais il faut le faire avec parcimonie, parce que c'est une espèce qui est fragile. Les plus petits Bernard l'ermite qui tiennent dans la main sont des animaux très communs, mais qui ont toujours vécu et coexisté avec le titi. Donc la question n'est pas d'interroger presque la relation de prédateur et de proie qui est naturelle, mais le titi, il encaisse d'autres pressions nouvelles, ce qu'on vient d'évoquer, et donc il se trouve vraiment aujourd'hui en défaut.
Ouais. Bernard, Mathieu Juncker, pardon, la question des petites îles du Pacifique, ça c'est un vrai sujet aussi à l'heure du réchauffement climatique, parce que ce sont des îles qui sont extrêmement vulnérables, parce qu'elles sont à quelle hauteur à peu près? C'est 1,50 m, 2 m?
Exactement, pour les atolls, c'est le cas. Après, il y a des îles hautes comme Tahiti ou la Nouvelle-Calédonie qui sont mieux défendues parce qu'elles ont effectivement tout ce relief. Mais quelles que soient les îles, toutes les infrastructures en fait sont en bord en fait. Donc les hôpitaux, les ports, les aéroports, les écoles, etc. Et donc face à une montée des eaux et surtout, j'ai envie de dire, à un récif qui se dégrade par la température ou par l'acidification des océans, eh bien c'est toute la frange côtière qui grignotait. Dans le cas d'un atoll, la frange côtière, c'est l'atoll.
Ouais.
Donc ces îles, on pourrait imaginer, pourraient disparaître à la fin du siècle si le récif corallien qui les porte,
c'est ça,
lui, périclite.
Et donc vous voyez, vous avez assisté, vous nous le montrez d'ailleurs, à ces épisodes de blanchissement des coraux. Ça, c'est vraiment la préoccupation majeure aussi?
Oui, clairement.
Sur place,
en fait.
Parce que c'est cette barrière naturelle des atolls qui est en train de s'effondrer, de disparaître.
Complètement, oui. Et ce récif, en fait, fournit également le matériau. C'est-à-dire que lorsqu'il est naturellement cassé par les vagues, eh bien, ces débris coralliens sont roulés et forment le sable, en fait. Et le sable, c'est ce qui vient nourrir l'atoll, qui lui permet d'exister. Et le récif construit très bien par lui-même, en fait. Il est vivant, c'est une barrière vivante. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, ces îles, sans leur barrière, en fait, sont en partie condamnées. Ouais.
Est-ce que y a moyen de lutter aujourd'hui, justement, pour essayer de renverser la tendance sur le blanchissement, par exemple, des coraux, ou est-ce que l'échelle, justement, des températures est tellement importante que, malheureusement, on risque d'échouer là-dessus?
Alors, pour moi, effectivement, il y a deux échelles. Celle des coraux, c'est l'échelle internationale, en fait. Ce que j'ai vécu là-bas, en fait, c'était... L'atoll, il n'y est pour rien. Il n'y a personne là-bas. Et pourtant, en fait, il est le premier à se dégrader. Et donc là, c'est bien, effectivement, trop de carbone dans l'atmosphère qui crée ça. Et les scientifiques, de manière unanime, disent qu'effectivement, à plus de degrés, 99% des récifs auront disparu à la fin du siècle. Mmh. Ce qui est assez dramatique, encore une fois, par rapport à tous les services qu'ils rendent à l'homme, et par ailleurs à la biodiversité elle-même. Mais donc, c'est les questions qu'il faut tous se poser. Maintenant, localement, par exemple sur des titis, etc., on peut aussi revégétaliser les îlots. En fait, ça forme des habitats naturels. Ça permet aussi, avec le réseau de racines de ces arbres, de maintenir en fait, le sédiment, le sable et donc la cohésion en fait, de l'îlot. Retirer les déchets. En fait, il y a un tas effectivement d'actions locales qui peuvent être engagées avec juste de la bonne énergie. Et ce qui d'ailleurs est le cas, c'est qu'après cette expédition, il y a une association qui vient de renaître de ses cendres et qui s'engage dans une campagne de dératisation pour permettre aux titis de recoloniser naturellement des îlots en fait où il avait perdu sa place du fait de la présence de rats.
Comment on rentre après chez soi, donc en Nouvelle-Calédonie en ce qui vous concerne, après 8 mois d'un séjour comme ça en solitaire? C'est facile de se réadapter ou on est vraiment très content d'entrer pour le coup?
Honnêtement, je serais bien resté quelques semaines de plus parce que je commençais à me plaire. En même temps, j'étais ravi. Ma femme et ma deuxième fille sont venues me chercher sur l'atoll. C'est facile de retrouver effectivement de l'eau courante, un poisson sans se battre contre un requin pour repartir avec, ça c'est sympa. Par contre, effectivement, le monde également change et me questionne. Donc ce pas de côté, en tout cas j'espère, va provoquer un engagement plus fort de ma part et peut-être d'autres pour la préservation de cette planète.
Merci beaucoup Mathieu Juncker. C'est un documentaire Seul sur l'atoll, journal d'un naufragé volontaire réalisé avec Jérôme Reynaud qui sera diffusé bientôt sur France Télévisions. Merci beaucoup à vous d'être venu au micro de la Terre au Carré aujourd'hui. Merci beaucoup et bon retour en Nouvelle-Calédonie.